Évêque Affelot, le 1er février 83, 4e cours.
Y a-t-il des questions? Il faut comprendre quelque chose pour pouvoir poser des questions. Le propre du statut d'interrogation, vous savez bien, c'est de connaître quelque chose et puis à côté quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors quand on est dans le brouillard le plus épais au point de vue métaphysique, on a de la peine à poser des questions. Bon, je continue quand même. Alors je vous disais tout à l'heure, parce que je crois ça important de saisir ces cinq modalités du principe de causalité finale, de saisir ensuite comment l'acte sépare et donne l'autarxie, l'autonomie. Alors, c'est à partir de là qu'on pourrait dire, hein, et en fonction du reste de certaines positions, comme Leibniz, qui ont confondu l'acte et l'exercice, qui ont confondu l'acte et l'effort, le conatus, montrer que l'acte n'est pas l'exercice, que l'acte n'est pas le conatus. J'espère que maintenant c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que c'est facile de faire la critique de Leibniz, et Leibniz était un de ceux, un des rares, disons, qui ont encore parlé de l'energeia, l'entelekeia. Et donc il est quand même intéressant d'en faire la critique. Et de montrer que, de fait, ils n'ont pas saisi vraiment l'acte. Alors, il faut saisir que l'acte n'est pas l'exercice. Je me suis mis de l'exercice pour montrer que l'acte existait. Mais l'acte en lui-même n'est pas l'exercice. Pourquoi? Parce que l'exercice est toujours au niveau de la cause efficiente.
Au niveau du devenir,
c'est vrai. Vous n'avez aucune expérience d'un devenir qui soit au-delà de la cause efficiente. Vous avez l'expérience du devenir quand vous travaillez, quand vous grattez et vous prenez des notes. C'est une expérience du devenir, ça. Vous faites quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se produit. C'est un certain devenir. Cette expérience du devenir est liée à la cause efficiente. Avez-vous l'expérience d'un exercice qui puisse vous détecter, qui puisse vous permettre de découvrir la fin? Avez-vous l'expérience d'un devenir, avez-vous l'expérience interne d'un certain devenir qui puisse être libéré de la cause efficiente?
Au niveau du nous, il n'y a pas un nous, du nous.
La compensation.
Vous expliquez ça dans des animaux qui a une partie du nous, dans le nous, si on découvre une intériorité de l'acte sur la puissance, qui fait que c'est plus la causalité efficiente.
Est-ce que dans le nous, vous avez l'expérience, vous avez toujours une potentialité du nous, hein, qui est radicalement en puissance? Tabula rasa. Hein? Tabula rasa, c'est quelque chose. Hein? C'est une table bien rasée. On est très sérieux. Traduction libre. Alors, c'est une table dans laquelle rien n'est écrit. Alors, le nous va s'exercer toujours dans un certain devenir. La volonté aussi. Donc, tout exercice dont j'ai l'expérience implique une cause efficiente. Et l'exercice me rattache en premier lieu à la cause efficiente. Quel est le propre de la causalité finale, à la différence de la causalité efficiente?
c'est l'attraction. Je suis attiré par le bien. Le bien, c'est ce que tout désire. Avez-vous l'expérience d'une attraction à l'état pur? Vous savez l'image de l'aimant, hein, je dis à ça, les anciens redessins. Alors c'est l'aimant qui attire, donc il a la maille de fer, et puis pff, ça se lève, merveilleux. Est-ce que j'ai l'expérience de cette aimantation de mon cœur, de mon intelligence? J'ai l'expérience de l'amour. Quand j'ai l'expérience de l'amour, j'ai l'expérience de l'attraction. Alors vous voyez.
Oui. Est-ce qu'elle n'est pas toujours médiatisée par les effets?
Cette expérience d'amour?
Oui.
Ah, c'est-à-dire qu'au fond, c'est vrai que l'expérience radicale de l'amour, c'est-à-dire l'attraction vers le bien, je ne l'ai ordinairement qu'à travers l'intention et le choix. Mais, donc, il est médiatisé par l'intention, par le choix. Mais je peux quand même toucher intellectuellement ce qu'est l'amour, oui, par cette expérience interne. Et donc, comprendre ce qu'est l'attraction. Alors, il y aurait une question très intéressante à poser. Puisque nous cherchons à savoir qu'est-ce que c'est que l'acte. Mais je dis, l'acte sépare. Il sépare de tout. Il est transcendant. Alors, est-ce que je n'ai une connaissance? Je n'ai qu'une connaissance négative de l'acte. C'est pour ça que certains, commentant Aristote, ont dit que quand Aristote pose l'être en acte, il pose Dieu. Or, de Dieu, je n'ai qu'une connaissance négative. Hein? Alors, est-ce que de l'acte, je n'ai qu'une connaissance négative? Vous voyez, je termine par cette petite réflexion critique. J'ai parlé de la ratio actus tout à l'heure, hein? Est-ce que vous saisissez ce que c'est que la ratio actus? C'est pas si dommage que ça, c'est un très beau mot, mais c'est pas si dommage que ça de savoir ce que c'est que cette ratio actus. Est-ce que vous avez dans votre intelligence ce concept particulier de la ratio actus? Je comprends très bien. Vous pouvez saisir ça, c'est vrai ça. C'est un concept, c'est le concept de l'acte. L'appréhension de l'acte, la ratio à tous. Dans la mesure où vous saisissez le principe de finalité au niveau proprement métaphysique, dans cette même mesure, vous saisissez la ratio à tous. Ça, c'est sûr. Bon, je peux donc réfléchir sur le contenu de la signification de cette ratio à tous. Qu'est-ce que signifie cette ratio à tous? Est-ce que je peux le définir positivement, analogiquement, c'est bien évident, ou purement négativement, à la manière de Dieu? Je n'ai pas de concept de Dieu, mais j'ai un concept de l'acte. J'ai un concept de l'être. Je n'ai pas de concept de Dieu, au sens rigoureux. Pas, quand on parle d'un concept de Dieu, c'est un langage ordinaire, hein, c'est pas un langage proprement philosophique, parce que je n'ai pas de concept de Dieu. Sartre a raison de dire que si on avait un concept de Dieu, il serait contradictoire. Ça c'est sûr. Là, Sartre a raison. Il faut faire grande attention à Sartre de ne pas employer le mot concept de Dieu. Dans le monde ecclésiastique, on l'emploie de temps en temps. Et j'aime pas. Même quelquefois des gens très, très haut placés, ils l'emploient. J'aime pas du tout parce qu'au fond, c'est pas juste. Et après ça, il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas de concept de Dieu. On peut poser un jugement d'existence sur Dieu, mais pas un concept de Dieu. Alors, est-ce que j'ai un concept positif de l'acte? Ça, je dois me le poser. Hein. Vous comprenez, j'ai un concept analogique de l'acte avec ses cinq modalités. Ces cinq modalités sont positives. Si ces cinq modalités sont positives, j'ai donc quelque chose de positif de l'acte. Et je vous ai dit tout à l'heure que ces cinq modalités me permettent de comprendre toute la richesse de la ratio à tous. Toute la richesse de la ratio à tous m'est donnée à travers ces cinq modalités. En cherchant ce que me donne le mouvement. Disons, ça veut dire quelle interprétation. Je vous laisse 15 jours avec les gens dessus. Métaphysiquement, 15 jours de retraite pour savoir comment le mouvement manifeste l'art. Alors, je dis l'art sépare. Quand je dis ça, vous voyez, je ne dis rien de positif. Je dis que l'art transcende toutes les autres significations. L'acte transcende toutes les autres significations. Mais est-ce que l'acte a une signification propre ? Il faut bien qu'il y ait une signification propre. On ne dirait pas par hasard tous. Alors, quelle est la signification de l'acte ? Oui, le problème est très très difficile, hein, point de vue philosophique. La signification de la substance, la signification de la qualité, la signification. Ça, c'est très très facile, parce que je suis dans l'ordre cumulatif. Je peux dire que la substance est au-delà de la cuidité, ce que je dois dire. La substance est source de la cuidité, mais lorsqu'il s'agit de l'acte, quelle est la signification de la ratio à tous ? Quelle est la signification de l'acte ? Quand j'ai dit que l'acte sépare, c'est négatif. Ça, c'est sûr. Alors, je dis, est-ce que je peux dire que l'acte, c'est l'exercice ? Je dis non. Parce que l'exercice est beaucoup plus lié à la cause efficiente. C'est à partir de la cause efficiente que la chose s'exerce. Toujours. Qu'il s'agisse du mouvement physique, qu'il s'agisse du mouvement vital, c'est toujours à partir de la cause efficiente. Nous avons dit attraction. Nous avons vu que l'attraction n'était pas l'exercice. Et l'attraction me met suspendu au bien. Je suis suspendu au bien quand je suis attiré. Et cette attraction, c'est l'amour. Alors, est-ce que je peux définir l'acte par l'attraction ? Et dire là, j'ai quelque chose de positif. Merveille. J'ai quelque chose de positif pour définir ce que c'est que l'acte. Est-ce que je peux le faire ? Hein, comme c'est difficile, hein ? Vous êtes quoi ? Est-ce que je peux définir l'acte par l'attraction ? Bien, je peux définir le point de vue du bien qui attire. Oui. Le bien attire. Or, le bien est acte, donc l'acte attire. L'acte attire, c'est vrai. Mais l'attraction n'est pas l'acte. C'est l'effet de l'acte. Oui, c'est l'effet de l'acte. C'est l'effet. L'amour n'est pas l'acte. L'amour est l'effet de l'acte. C'est l'effet du bien. Le bien suscite en moi un amour. Mais l'amour n'est pas le bien. L'amour est au niveau subjectif, alors que le bien est au niveau objectif. Et donc je peux dire, en effet, que le bien attire, que le bien suscite en moi un amour. C'est déjà beaucoup. Mais je ne peux pas définir l'acte par le point de vue de l'attraction, ni par le point de vue de l'amour. Si je définissais l'acte par l'attraction et par l'amour, vous voyez, j'oublierais l'aspect transcendant de l'acte. Et je resterais dans l'aspect immanent. Je confondrais l'éthique et la métaphysique. Et je resterais dans l'immanence de ce que représente l'amour. Donc je ne peux pas faire ça. Mais cependant, attention, cependant, l'attraction, c'est l'effet du bien. C'est donc l'effet d'une certaine modalité de l'acte. C'est donc l'effet radical de l'acte. Si c'est un effet propre, il doit m'aider à saisir ce qu'est la cause. Et donc l'attraction doit m'aider à comprendre ce que c'est que l'acte. Alors, comment, par l'attraction, puis-je préciser d'une façon positive ce que c'est que l'acte ? Oui, raisonnement, j'espère. Oui.
Est-ce que par le point de vue de l'autre, dans l'amour, par rapport, si on prend l'exemple de l'amour, et puis l'amour qui est effet par oui. rapport au sujet,
oui.
et c'est l'autre qui est la cause.
Oui, c'est le bien, c'est le bien. Oui. C'est le bien qui m'attire, et c'est le bien qui suscite en moi un amour. L'amour n'est pas le bien. Or, l'acte, c'est le bien. Donc, l'effet du bien, c'est l'attraction et c'est l'amour. Je suis attiré, je suis aimanté par le bien. Et le bien suscite en moi un amour. Ça, c'est bien, ça, c'est vrai, c'est l'expérience que nous pouvons tous faire. Vous voyez, quand on a une âme démoniaque, on a une âme aimantée. Et donc, on est capable de saisir ce que c'est que le bien. On est saisi par le bien. On est pris par ça. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, démoniaque dans le sens de Platon, comprenez bien. Quand... Vous allez me dire, c'est effrayant. Démoniaque dans le sens de Platon. Le daimon, hein ? Pas du tout dans le sens doctrina sacra. Mais pas dans... Donc, démoniaque dans le sens, oui, parce que je voyais des visages qui étaient un peu folles. Donc, quand on a une âme démoniaque, on a une âme aimantée, capable d'être attirée par le bien. Et quand on est attiré par le bien, donc le bien s'exerce sur moi. Oui, je suis donc en face d'un effet de l'acte. Et parce que c'est un effet propre, c'est évidemment cet effet propre qui doit m'aider énormément à comprendre ce que c'est que l'acte. C'est très difficile de se dire qu'est-ce que c'est que l'acte. Oui, cinq modalités. Les cinq modalités le permettent. Alors.
Dans quelle mesure l'aliquide de saint Thomas n'est-il pas là ?
Oui, l'aliquide est là, c'est sûr. Mais il faut définir quelle est la signification de ça. Séparé des autres et indivise en soi. Pas l'aliquide. Séparé des autres, donc, vous avez bien, l'acte sépare. Ça, c'est sûr. Mais la séparation, c'est négatif. Et individu en soi, alors c'est là. Qu'est-ce qui caractérise ? Saint Thomas n'a jamais précisé la signification de l'acte. C'est tellement évident. C'est tellement évident qu'on n'a pas à préciser ce que c'est la signification de l'acte. Mais nous devons le faire, nous. Si nous faisons de la philosophie, nous devons le faire. Saint Thomas, lui, a utilisé ça merveilleusement et puis il a regardé ça du côté de l'essai. Mais quelle est la signification de l'acte, oui ?
Saint Thomas, à cette phrase, dit que le plus ou moins parfait se prend essentiellement de l'acte. Est-ce que la perfection ne serait pas pour Saint Thomas l'effet propre de...
Est-ce que la perfection, c'est l'acte ?
Non, je ne dis pas que c'est l'acte.
Ah, mais ça se prend c'est ce que je cherche. Hein. C'est ce que je cherche. Je cherche qu'est-ce que c'est que l'acte. Le tiesti de l'acte, le tiesti de l'acte, la ratio actus.
Est-ce que la raison de perfection n'est pas la plus proche de la ratio actus ?
L'attraction est plus proche. L'imperfection, c'est la qualité. La nobilita, c'est la perfection, c'est la qualité. Alors, vous retombez dans les déterminations. C'est vrai. Ça veut dire, quand Saint Thomas dit à propos de la ratio boni. La ratio boni est quand même assez proche de la ratio actus. C'est assez proche. Cousin Germain. C'est cousin Germain. La ratio actus est plus profonde que la ratio boni. Ça, je suis d'accord. Mais la ratio boni est quand même plus facile. Et Saint Thomas précise que la ratio boni, trois étages. Hein, pour la ratio boni. Il le dit textuellement, ça. Il dit que la ratio boni implique l'essai. Oh, très bien, intéressant pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'essai et l'acte. Il met l'essai comme un élément de la ratio boni. On voit bien, c'est l'acte substantiel, c'est un élément. Donc c'est pas du tout ultime. C'est-à-dire que l'essai est ultime, non, c'est l'acte qui est ultime. C'est pas l'essai, c'est un mode ultime de la substance, mais au niveau substance. Il dit premier élément, l'essai. Deuxième élément, les qualités.
les virtus. Alors, je dirais, perfection. Pour être bon, il faut être parfait. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas être bon sans être parfait. Mais la perfection n'est pas la bonté. Il y a beaucoup de gens qui sont parfaits et qui sont pas bons. Vous savez, les gens par trop vertueux, n'est-ce pas, sont des lois ambulantes. Alors, ils sont parfaits, ils sont parfaits. Regardez-moi comme je suis parfait. C'est pas ça la bonté. La perfection implique l'intégrité. C'est intéressant ça, parce que l'intégrisme, vous voyez, l'intégrité. Vous voyez, l'intégrité, c'est la perfection. Tandis que la bonté, c'est être catholique. Alors, c'est-à-dire, oui, c'est très intéressant, ça montre très bien qu'on s'est arrêté en chemin. Mais je prends l'intégrité, c'est-à-dire pas. L'intégrité est nécessaire, notre foi est intègre, elle est parfaite. Et quand je dis l'intégrisme, je fais une réduplication sur la perfection. Et faisant cette réduplication sur la perfection, je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, je suis parfait, mais pas bon. Celui qui est bon attire. Celui qui est parfait, il ne manque rien. C'est pas la même chose. Il ne manque rien. Je suis parfait, il ne me manque rien. Celui qui est bon attire. Toute la différence entre la perfection et la bonté. Alors, je suis d'accord que la perfection fait partie de la bonté, alors tout à fait. Mais il y a quelque chose de plus. Donc il y a, et bien là, être uni à sa fin. Être uni à sa fin. Celui qui est bon, c'est celui qui est uni à sa fin. Et parce qu'il est uni à sa fin, il peut attirer les autres. Oui. Donc il y a les trois éléments. Ça c'est très intéressant, la ratio bonum. Mais la ratio actus, c'est plus que la ratio bonum, métaphysiquement parlant. Non? C'est plus facile pour moi de comprendre la bonté que l'acte. C'est sûr. C'est plus facile pour moi de comprendre ce que c'est que la bonté. J'ai beaucoup plus d'expérience de la bonté que de l'acte. Parce que l'acte, c'est quelque chose qui est plus difficile, on est au niveau métaphysique. Tandis que la bonté, je peux avoir une expérience quand même de la bonté. C'est sûr que j'ai permis la bonté de celui-là. Je n'attirais pas. Il est mon bien. Et alors c'est bien, c'est intéressant de voir la différence entre la perfection et la bonté. C'est très proche de nos expériences. On peut tous faire la différence entre la perfection et la bonté. Quand vous dites quelqu'un, il est bon, parce qu'il est bon. Puis l'autre, parce qu'il est parfait. C'est très embêtant. il est trop parfait. Je voudrais bien le prendre, vous voyez. En défaut pour lui montrer qu'il y a une petite faille parfaite, extraordinaire. Hein. Mais la bonté, non, il vient de ça de la bonté, c'est autre chose, c'est quelque chose beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin. Le bien attire. Alors, le bien attire, je crois que l'acte attire. Et c'est curieux, Saint-Thomas n'a pas éprouvé le besoin, quand il s'agit de la ratio actus, de nous donner l'analyse de la ratio bonum. Et la ratio bonum n'est qu'un mode, c'est un mode, c'est pas la ratio avec tous. Je ne peux pas identifier les deux. Je ne peux pas dire la ratio avec tous, ah j'ai ça, laisser, qualité, enfin non. Je ne peux pas dire ça. C'est curieux. C'est déjà pas si mal. Hein. Celui qui dirait ça, c'est déjà pas si mal. Il s'approche de l'acte, par le point de vue du bien. C'est ce que nous devons faire ordinairement. Hein. C'est la voie la plus facile pour nous. C'est par le bien qu'on s'approche de l'acte. Pour ça qu'il faut toujours faire métaphysique et éthique en même temps, parce que grâce à l'éthique, vous comprenez ce que c'est que le bien, grâce à l'éthique, vous êtes quand même beaucoup plus proche de la ratio avec tous. Mais il faut faire un dernier effort. Il ne faut pas dire, oh, l'éthique, c'est la métaphysique. Non, 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 ce ne sera jamais la métaphysique. Parce que l'être, parce que l'homme qui cherche son bien, l'homme n'est pas l'être. Ce ne sera jamais la métaphysique. L'éthique sera une partie. Alors, quel passage entre la ratio bonum et la ratio actus ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est très difficile. Moi, ça ne se définit pas, je ne peux pas définir, mais je pourrais faire l'analogue de ce que fait saint Thomas, et c'est ce que je devrais faire, l'analogue de ce que fait saint Thomas par rapport à la ratio bonus. On devrait faire l'analogue. La ratio à tous implique quelque chose d'analogue à la ratio bonus. La ratio à tous implique l'analogue de la ratio SC, de la ratio VRI, et ainsi de suite. L'analogue de tout ça dans l'unité. Et alors, je crois que c'est ça qui est très curieux, je crois que c'est par l'effet de l'attraction, parce que c'est ce qui est ultime dans la ratio bonus, le bien intime. Et donc, c'est par l'attraction que je pourrais être le plus proche possible de ce que c'est que la ratio de actus. En comprenant bien que l'attraction est un effet. Donc, si c'est un effet, ce n'est pas la cause, mais c'est tout proche, c'est un effet propre. Seul l'acte attire. Seul le bien attire. Alors, intéressant. Qu'est-ce que vous diriez? La cause de l'attraction. Là, j'ai quelque chose de positif. Vous voyez. L'acte sépare, et ça, il faut le dire en premier lieu, pour tout de suite prendre le point de vue négatif. L'acte sépare, mais l'acte attire. C'est en ce sens-là que l'acte, s'il sépare, vous voyez, demeure. Donc, par la séparation, il transcende. Il transcende toutes les déterminations. Il transcende tout l'exercice. Il transcende tout cela. Il est au-delà de tout ça. Donc il est au-delà de la vie. Ça c'est sûr. Il est au-delà de l'aspect de la vie. La vie est toujours, implique toujours l'opération et l'exercice. On ne peut pas séparer le vivant, c'est un être qui s'agite. Hein? C'est évident. Là, je regarde un petit gosse, comme il est vivant, hein? Il bouge tout le temps. C'est comme il est vivant. Non? Et vous ne direz pas comme il est en acte. Un petit Bouddha. C'est en acte. Non? Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est vivant, il a la ratio avec tous. Alors, la distance qui existe entre les deux, et en même temps, comment l'acte est présent dans la ratio, alors, je crois que c'est par l'attraction. Alors il faudrait chercher, vous voyez, bien, il faudrait chercher ce qui, dans l'attraction, me permet de remonter à la source. Parce que là, j'ai un élément positif. C'est un des éléments. Et je prends celui-là parce que c'est quand même la ratio bonus qui me semble celle qui rayonne le plus là. L'acte rayonne le plus dans la ratio bonus, plus que dans la ratio C, plus que dans la ratio B, ça c'est sûr. Donc, c'est l'effet propre du bien qu'est l'attraction qui me fait le mieux comprendre la manifestation de cette ratio actus et de ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans le point de vue de l'acte. Qu'est-ce que c'est qu'attirer ? Ne pas séduire. Attirer. Attirer, c'est permettre l'épanouissement d'un autre. C'est ça attirer. Être cause d'amour, c'est cause de l'épanouissement, cause de la dilatation de l'autre. L'autre devient lui-même grâce au bien qu'il attire. Oui, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la fin cause des causes, hein, parce qu'elle permet l'épanouissement de l'autre. Elle permet à l'autre d'être parfaitement lui-même. Et ceci gratuitement. Le bien attire gratuitement. C'est très différent de la causalité efficiente. La causalité efficiente, elle s'enrichit. Tandis que la causalité finale ne s'enrichit jamais. C'est gratuit. Le propre de la causalité, de l'attraction. Alors l'attraction permet à l'autre de s'épanouir, d'être lui-même, ceci en vertu même de ce que représente l'être en acte. L'être qui est parfaitement lui-même comme être. Et c'est peut-être ça qui montre le mieux ce que c'est que l'acte.
c'est l'être est parfaitement, oui, je dis parfaitement, au point de vue du mode, pas au point de vue de la perfection, au point de vue du mode, oui, au point de vue du mode, je veux bien. C'est l'être qui est parfaitement lui-même comme être. Et donc, qui atteint sa plénitude, qui atteint ce que l'être demande d'être. Et je ne peux pas dire autre chose, hein, la ration de tous. C'est ça. C'est l'être qui est parfaitement lui-même, qui est lui-même comme être. Et alors, parce qu'il est lui-même comme être et parfaitement être, il a cette capacité d'attirer. Il a cette capacité de faire que l'autre, gratuitement, puisse s'épanouir. Et on vit à l'ombre de l'être. C'est l'ombration, vous voyez, c'est mystiquement, ça. C'est l'ombration, c'est, on vit à l'ombre de l'autre. Et c'est vrai que la ration à tous, c'est ça. En attirant, il permet à l'autre de se développer. Bon, ce qui montre, vous voyez, que comme c'est difficile, hein, on est devant des notions tout à fait premières, et c'est capital, ça, parce que ça fait tout de suite comprendre la différence entre le point de vue du bien et du parfait, et le point de vue de la ratio et tous comme quelque chose d'ultime. C'est vraiment là où mon intelligence s'approche le plus de l'être. Étreint le plus l'être. C'est là où mon intelligence se sert de l'amour, parce que je me sers de l'attraction, où mon intelligence se sert de l'amour pour comprendre la source de l'amour. Et comprendre comment l'acte suscite, est capable de susciter cet épanouissement plénier chez l'autre, sans aucune jalousie. Mais, si le bien se communique sans jalousie, l'acte encore plus, parce que l'acte est antérieur à la ratio de l'être. Donc, je crois que c'est difficile de dire plus. Hein, si vous trouvez, métaphoriquement, on peut alors ajouter tout ce que vous voulez, métaphoriquement, ça. On peut dire que la ratio de tous, c'est le sommeil dans l'ordre de l'être. Alors ça chauffe, ça réchauffe, ça attire. Ça c'est très très bien, métaphoriquement. Vous voyez, ça aide. L'aimant merveilleux qui attire, qui crée autour de lui un milieu. C'est vrai, le bien crée autour de lui un milieu. Et la ration de tous crée autour de ce que c'est que l'acte crée un milieu, puisqu'il attire les autres. Bon. Nous avons donc, je reviens toujours à la structure métaphysique, hein. Alors essayez d'y réfléchir, ceux qui ont le temps, essayez de bien comprendre un peu cette métaphysique de l'acte, ça vaut la peine. Une fois qu'on a fait l'effort, on y est. Alors, vous avez donc le premier axe de la métaphysique, l'ousia. Second axe de la métaphysique, j'aime bien dire des axes, les axes de recherche, l'être, énergéia, l'être en acte, la substance. Mais deux grands actes, rien entre deux le néant heideggerien, vous voyez, c'est le néant heideggerien, le dépassement de la... Alors, pour Heidegger, l'ousia, il y avait quelque chose encore d'intéressant à voir, j'ai oublié, je voulais le dire, la ratio actus, pour Heidegger, vous voyez, l'acte, c'est la présence. Vous savez ces expressions qu'il a si extraordinaires, qui sont belles du reste, hein, qui sont belles parce qu'elles sont poétiques. Et c'est toujours intéressant quand on est à court de terme de revenir vers quelque chose de plus facile à comprendre, de comprendre que le point de vue de l'acte, comme tel, je voulais le prendre tout à l'heure, puis je me suis trompé. Heidegger dit que l'acte, ce qui est le sommet de la métaphysique grecque, c'est aller au devant, c'est se présenter, c'est la présence. Alors, pouvons-nous dire que l'acte, c'est la présence? J'aime bien dire que c'est source d'attraction de présence. Au fond, l'ousia, j'aime assez bien de dire que l'ousia est présence. Tandis que ça me semble très difficile, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que Heidegger, quand il s'agit de l'acte, reprend les mêmes termes que l'ousia. Il est bloqué. Alors qu'il y a deux choses tout à fait différentes. L'être en acte, ce n'est pas la présence. Il attire. Pas la même chose. Attirer et être en présence, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, du fait même que j'attire, je suis en présence. Oui, mais c'est un aspirateur. C'est pas tout à fait la même chose quand vous aspirez comme ça. Et ça vous donne une sacrée frousse d'être complètement aspiré. Tandis que la présence, vous êtes vous-même. L'être en présence vous permet de face à face. Et ça. Tandis que là, il y a quelque chose de très curieux. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup dire que c'est en présence. Il faudrait trouver quelque chose d'ordre poétique pour essayer de traduire ce fait de l'être en l'acte qui attire.
Est-ce que ça serait la ressemblance?
Ah non. Non. Pas la ressemblance. La ressemblance serait plus du côté, c'est vrai, du côté de l'amour d'amitié, vous avez ça. Mais vous voyez, l'amour d'amitié reste à un niveau humain. Tandis que là, vous êtes en face du point de vue métaphysique pour essayer de comprendre cette causalité propre de l'être en acte. C'est quelque chose de très spécial, c'est très difficile. Réfléchissez, puis vous me le direz dans 15 jours. Troisième moment. Donc là, c'est la structure de la métaphysique. La structure scientifique de la métaphysique implique la découverte de ces deux principes. Principe propre, selon la forme de ce qui est. Et puis alors, oui, principe propre, selon la fin de ce qui est. Je crois qu'il faut bien souligner selon la forme et selon la fin de ce qui est. Vous avez donc là les deux principes. Une fois que vous avez les deux principes, on revient toujours à la réalité pour saisir les propriétés. Le propre de la connaissance scientifique, c'est saisir la propriété. La propriété de ce qui est. En tant qu'il est. En tant qu'il existe. La propriété de ce qui est en tant qu'il existe. Alors, la propriété de ce qui est en tant qu'il existe, c'est le problème de l'un et du multiple. Vous voyez où se situe dans la métaphysique ce problème de l'un et du multiple, la propriété. Il ne restera plus après qu'à voir le problème de la personne. La métaphysique s'achève avec le problème de la personne. Ce que la scolastique n'a absolument pas fait. Alors c'est désastreux parce que le problème de la personne a été pris par les psychologues. Dès qu'il y a un trou, les psychologues se jettent dessus. Ou les sociologues, immédiatement. Mais c'est normal, c'est tout à fait... Ils ont un domaine là qui était resté vide. On n'en parlait pas. On disait la métaphysique uniquement, c'est des notions, c'est des... Très loin de la personne, pas du tout. La métaphysique se termine au niveau de la personne. Si je fais toute cette analyse de l'être, de la manière la plus scientifique qui soit, c'est-à-dire la plus analytique qui soit, où je vais le plus loin possible dans l'analyse, où je veux saisir les principes propres, c'est pourquoi ? C'est pour saisir les propriétés, c'est sûr. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est pour saisir ce que c'est que l'homme. L'homme dans ce qu'il est. Et donc de se dire qu'il y a une dimension particulière de l'homme, c'est que l'homme est une personne. Seule la métaphysique peut dire que l'homme est une personne. Seule la métaphysique, seule la philosophie première. Mais il faut la laisser tomber, ça. Regardez tous les manuels thomistes. Hein. Je crois que j'ai fait un inventaire sur les manuels thomistes. Regardez tous les manuels thomistes. Allez dans la bibliothèque du grand séminaire, et puis regardez tous ces vieux livres dans lesquels il doit y avoir de la poussière, et tous les vieux manuels thomistes hein, du début du siècle, Macquart, les jours du jeudi Macquart. Il faut regarder Macquart une fois dans sa vie. N'est-ce pas ? Alors regardez la table des matières, c'est vite fait. Et puis cherchez personne. Il n'y a personne. Il n'y a rien, ça ne dit pas. Ça reste, il y a le vide. Il y a le vide. Et alors regardez les manuels psychologiques, regardez tout. Alors là, tout de suite. Parce qu'on a laissé tomber ça. Et c'est là où se termine, où s'achève le problème métaphysique. Si je fais, vous voyez, c'est la finalité, c'est ça qui est très important. Quand on ne voit plus la finalité d'une science, mais on se désintéresse de cette science. Pourquoi on s'est désintéressé de la métaphysique? Pourquoi on s'est désintéressé de la philosophie première? Parce qu'on n'a pas vu la finalité. Qu'est-ce qui dirait aujourd'hui que la philosophie première, on l'a fait pour découvrir ce que c'est que la personne? Faites votre enquête, c'est intéressant. Interrogez les philosophes, demandez la métaphysique, c'est pourquoi? Quelle est la finalité de la métaphysique? Alors souvent, la finalité de la métaphysique, vous dites, c'est le gargarisme des notions. Il y a un certain temps, elles sont propres, et le gargarisme continue. Alors, c'est le gargarisme des notions. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas de la métaphysique pour la critique. La critique se fait pour la métaphysique. Et pas l'inverse. Parce que le gargarisme des notions, c'est la critique. C'est très important de purifier ces notions. C'est très important de purifier la ratio avec tous. C'est très très important. Mais c'est pourquoi? Ah, c'est pour savoir ce que c'est que la personne humaine. Là, vous êtes en face de ce que représente vraiment le point de vue, la finalité de votre science. La métaphysique, c'est pour connaître la personne humaine et comprendre ce que c'est que l'esprit. Aristote l'a dit dans un lieu que je n'arrive pas à retrouver, que la métaphysique, c'est pour connaître l'esprit, le nous et Dieu. Ça, c'est très beau. C'est pour savoir ce que c'est que l'esprit. Alors, s'il n'y a plus de métaphysique, l'esprit disparaît. Tout le monde dans sa conception, c'est plus ce que c'est. Et on sait plus ce que c'est que la personne. Et alors à ce moment-là, vous êtes livré en proie aux psychologues et aux sociologues, il n'y a plus qu'eux, qui parlent de la personne. Et vous ne savez plus du tout ce que c'est. Oui. Et c'est pour ça qu'on doit maintenir la métaphysique. À travers tout. Parce que la métaphysique se termine dans la personne. Alors, seconde partie de la métaphysique, ça c'est la première partie. La partie analytique. Je le reprends pour que vous voyez mieux, pour que la finalité de tout ça. Secondement, seconde partie de la métaphysique, puisque elle est pour qu'on connaisse l'esprit et Dieu. Second, une fois que j'ai découvert ce que c'est que la personne, je me pose la question, est-ce que la personne est l'être suprême? Est-ce que la personne que je suis, est-ce que c'est l'être suprême? Et alors à partir de ce moment-là, j'entre dans ce qu'on appelle la théologie naturelle. La théologie naturelle, vous voyez, conduit, ça fait partie directement de la philosophie première. Hein. Une philosophie première implique cette première partie analytique, et cette seconde partie est une théologie naturelle. Et cette théologie naturelle va se conclure, une fois que j'aurai découvert l'existence de Dieu et du Créateur, dans un point de vue de sagesse. Oui, il reste encore un peu de pain sur la planche. Hein? Il reste le problème de l'un du multiple, ça y est vite. Le problème de la personne se connaît assez vite. Et le problème B et C, ça c'est beaucoup plus long. Oui. Mais il faut le voir pour comprendre la totalité de la philosophie première. Vous voyez, on est loin de dire que la philosophie première c'est une usiologie. Hein? C'est pas ça du tout. Le problème de la philosophie première, c'est découvrir vraiment ce qu'est la personne humaine. Ayant découvert la personne humaine, comment il existe un être au-delà de la personne humaine, ayant découvert qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu,
cet être premier, c'est le créateur, et voir les rapports qui existent entre l'être premier et moi-même, et à partir de là, avoir un jugement de sagesse. C'est tout l'aspect existentiel de la philosophie première.